Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie. Tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageursdedemain.com. Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à hélène@voyageursdedemain.com ou un message sur le compte Instagram du podcast @voyageursdedemain. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Un documentaire sur l'élevage des saumons lui a fait prendre conscience de l'impact de son mode de vie sur sa santé et lui a ouvert la voie vers une alimentation végétale et plus respectueuse du vivant. Il a alors remis en question petit à petit différents aspects de sa vie pour passer d'un travail dans une entreprise de conseil en informatique sur Paris à une vie plus simple et plus épanouissante dans un petit chalet en Bretagne. Il a également troqué sa voiture de sport pour le vélo pour ses déplacements dans son quotidien, mais aussi lors de ses voyages. On a parlé de voyage à vélo, d'alimentation végétale ou encore de monnaie locale, mais aussi de l'importance de réduire ses dépenses pour reprendre le contrôle de son temps. Après notre entretien, Nicolas m'a envoyé ses recommandations que tu pourras retrouver avec le reste des notes de l'épisode sur le site du podcast voyageursdedemain.com. Bonne écoute. Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Hélène, mais pas de souci.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, d'où tu viens, quel est un petit peu ton parcours ?
Alors, déjà, je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et mon parcours est un peu, on va dire, assez classique. C'est-à-dire que j'ai un diplôme de marketing, je suis ensuite allé dans l'informatique pour être consultant pour des entreprises telles que les banques et les assurances. Et du coup, au bout d'un moment, quelques années de travail dans les banques et assurances, je me suis quand même posé des questions sur l'utilité de mes actions et le lien entre mes convictions et mon travail. Et du coup, je me suis aperçu au bout d'un moment que c'était pas tout à fait en accord, en fait, mon travail et mes convictions. Du coup, j'ai commencé par faire des petits changements. C'est-à-dire que j'étais donc sur Paris, je travaillais pour la BNP par exemple, et du coup je me suis dit bon, je démissionne, je vais aller à Nantes, une ville un peu plus petite, essayer de voir si je peux pas faire des choses dans l'associatif en parallèle de mon travail. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à Nantes, je me suis ensuite engagé dans une asso qui s'appelle Zero Waste Nantes pour essayer de faire bouger les choses autour de l'écologie et plus particulièrement de l'aspect zéro déchet. En fait, au tout début de mon engagement associatif, j'étais un peu aussi au tout début de mon mode de vie zéro déchet. Et du coup, l'engagement est allé de plus en plus loin en même temps que mon mode de vie, zéro déchet. Et du coup, plus j'en apprenais sur ce mode de vie-là, plus j'étais en décalage avec mon emploi de l'époque, qui était toujours consultant dans l'informatique. Et donc, à partir d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de travailler pour des choses qui me conviennent pas du tout. Et donc, j'ai quitté cet emploi et ça fait maintenant presque un an, puisque c'était en janvier 2018. Et du coup, maintenant, j'ai monté un peu mon projet autour du voyage à vélo et zéro déchet, dans l'idée de sensibiliser un maximum de personnes autour du voyage, on va dire, lent, de favoriser l'expérience du voyage et non pas la destination, et le tout en étant, on va dire, très écolo au niveau de la gestion des déchets. Donc essayer de faire le moins de déchets possible, avoir l'impact le plus faible possible quand on part en voyage. C'est l'idée de mon projet, et du coup maintenant que j'ai lancé ça, je m'épanouis énormément dans mes activités, on va dire, professionnelles, puisqu'elles sont en accord avec mes idées et en plus avec ma passion, donc c'est parfait.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens de nos âges et trentenaires qui vivent cette grosse crise, tu sais, à l'arrivée de la trentaine, tu dis, mais je suis partie dans quoi ?
En fait, je croise beaucoup de gens entre 30 et 40 ans qui sont anciens ingénieurs sur Paris. C'est un peu souvent ça, on est passé par Paris tous, on s'est aperçu de ce que c'était que la société de consommation un peu poussée à l'extrême. Et du coup, t'as plus ou moins rapidement le déclic et après, bah, tu changes de projet et c'est souvent, ouais, dans ces âges-là, on a, par exemple, à Nantes, on a beaucoup d'anciens Parisiens, qui viennent pour essayer de, un petit peu comme moi, d'être dans une ville un petit peu plus à taille humaine, tout en gardant un peu toutes les opportunités parisiennes, parce que c'est un peu ça à Nantes, et qui s'engagent du coup dans l'associatif, notamment chez Zero Waste Nantes. Donc on a tous ce point commun-là d'avoir vécu, on va dire, le mode de vie standard et puis un petit déclic, quoi.
Et du coup, toi, comment tu dirais que s'est faite ta prise de conscience écologique ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, à part ce que tu as raconté avec celle, enfin, le fait qu'elle a grandi au fil de ton engagement ?
Ben, le déclic, en fait, c'est un documentaire Arte sur l'élevage de saumon norvégien. Et c'était une époque où je mangeais beaucoup de sushis à Paris. Et quand j'ai vu comment étaient, enfin, produits, c'est pas le bon mot, mais comment étaient élevés les saumons et l'impact autour de cet élevage au niveau pollution et sanitaire, bah, je me suis posé beaucoup de questions autour de l'alimentation. C'était mon premier déclic, parce qu'en fait, je suis quasiment sûr que tous les sushis que je mangeais à Paris, c'était avec du saumon norvégien. Ça, il y a pas de doute vu le prix des sushis, c'était sûr que c'était ça. Et du coup, bah, j'ai arrêté ça dans un premier temps, et j'ai commencé à m'inscrire à une livraison de panier de, c'était pas que des légumes, là c'était un truc très complet, c'était un panier avec un peu de tout pour faire des recettes. Il y avait le panier plus les recettes, et du coup bah, ça m'a forcé à beaucoup plus cuisiner, et donc le fait de cuisiner plus avec des produits sains, déjà ça m'a fait perdre pas mal de poids aussi, j'étais bien mieux dans ma tête, et finalement j'ai pris goût à la cuisine, et petit à petit, autour de cette question de la cuisine, à la réduction des déchets, végétarisme, véganisme, qui est venu un petit peu après. Mais voilà, tout part d'un petit documentaire Arte, quoi.
Tu parlais du zéro déchet, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien ? Par quoi tu as commencé à ce niveau-là ?
Bah, par quoi j'ai commencé, c'est le truc un peu basique, on va dire, autour de l'alimentation, c'est les achats en vrac. Donc à l'époque, j'étais en Île-de-France, mais j'habitais pas Paris même, j'habitais en banlieue, proche de l'aéroport Charles de Gaulle. Et du coup, ça c'est la force de la volonté, je faisais une heure ou deux heures de plus de trajet que ce qu'il fallait pour arriver à une biocoop au centre de Paris et ramener tout ça ensuite chez moi, parce qu'en fait, dans le petit village qui est en fait une cité dortoir, hein, clairement, bah, il y avait rien de suffisamment propre et écologique à mon goût. Donc je faisais toutes mes courses à Paris après le boulot, et ensuite je rentrais. Enfin, c'était assez éprouvant, mais j'arrivais plus dans ma tête à consommer comme je faisais avant, parce que je reviens de loin. Moi, je faisais assez régulièrement le drive au champ, par exemple. Et là, on peut dire que niveau déchets, c'est pas terrible, hein. Et même niveau saisonnalité des produits, avec les tomates en hiver et tout, enfin, y a pas mal de problématiques autour de ça. Mais du coup, c'est vraiment l'alimentation, commencer par l'achat en vrac et ensuite aller progressivement vers les petits producteurs pour tout ce qui est végétaux, les légumes, les fruits. Et puis voilà, le vrac en biocoop dans un premier temps. Et après, j'ai eu là où j'ai pu vraiment comment dire passer un cap en termes de zéro déchet, c'est quand je suis arrivé à Nantes, parce que à Nantes j'habitais pas très loin du centre-ville, dans lequel il y avait une boutique 100% vrac qui s'était montée quelques mois avant mon emménagement. Et du coup, j'ai pu commencer à faire mes courses à vélo, avec les petits bocaux dans les sacoches, aller à la boutique, tout remplir. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment zéro déchet à ce moment-là. Et en plus, c'était très facile. Et maintenant, à Nantes, des boutiques en vrac, il y en a partout, dans tous les quartiers. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile que quand j'ai commencé. Mais voilà, ça m'a permis de passer un cap.
Est-ce que toi, t'as commencé il y a combien de temps, du coup ?
Ça doit faire 3 ou 4 ans à peu près.
Ouais, c'est intéressant de voir quand même comment ça a beaucoup changé en si peu de temps, au final, le paysage des boutiques vrac en France. Hein.
Je ne sais pas ce qu'il en est en Île-de-France, mais en tout cas à Nantes, c'est assez incroyable En un an, il y a eu une dizaine ou une quinzaine de boutiques qui se sont montées, et toujours dans des quartiers différents. Donc c'est ça qui est bien, c'est que finalement ça devient presque un commerce de proximité, les boutiques en vrac, et du coup ça facilite énormément le fait que les gens se tournent vers ces boutiques-là. Parce qu'avant, au tout début, la première boutique c'était centre-ville, ça faisait un peu le cliché un peu bobo écolo, quoi. C'est les gens qui vont faire les courses au centre-ville, voilà, c'est toujours les mêmes. Et maintenant, il y en a partout, donc c'est plutôt une bonne chose.
Ah, c'est sûr que l'accès, en fait, ça permet d'aider les gens aussi à faire le premier pas.
Bah oui, parce qu'en fait, avec les courses en vrac, normalement, c'est toujours pareil, hein, c'est la qualité équivalente, mais on devrait constater une baisse de budget alimentaire. Donc c'est normalement moins cher d'acheter en vrac qu'emballé. Encore une fois pour des produits à qualité équivalente, parce que si on compare le premier prix de Carrefour avec les boutiques en vrac, forcément ça va être plus cher, mais c'est pas la même qualité non plus.
Tu as commencé à en parler un petit peu, tu t'es tourné petit à petit vers le végétarisme et maintenant le véganisme. Qu'est-ce qui t'a amené en fait dans cette évolution?
Bah en fait c'est un questionnement suite à une lecture d'un livre qui m'a montrer à la fois un peu le quotidien des animaux d'élevage, le fait que tous les animaux, y compris nous, avons des sentiments, et que du coup je me suis dit j'ai trouvé difficile de justifier le fait de faire autant de mal à des espèces animales juste pour les manger. Surtout que là on est moi je suis en France. En France, il y a suffisamment de variétés alimentaires au niveau végétal pour qu'on soit pas obligé de manger des animaux, en fait. Parce que du coup, l'idée, c'est aussi d'adapter son régime alimentaire à l'endroit où l'on se trouve. Mais là, moi, clairement, j'avais le choix. Et donc, j'ai fait le choix de, dans un premier temps, d'arrêter les produits animaux, disons hors fromage, hors produits laitiers. Pour des raisons, voilà, de surtout éthiques. Après est venue la raison écologique, parce que vraiment l'élevage, en plus des problèmes éthiques que ça pose au niveau pollution, on est vraiment vraiment très 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 élevé. En plus de l'aspect pollution, il y a aussi l'aspect espace que ça prend sur la terre, parce que du coup il y a l'espace pris par l'élevage, mais il faut aussi compter l'espace pris par les cultures qu'on fait uniquement pour l'élevage. Et notamment ça participe à la déforestation en Amazonie pour planter du soja pour le bétail, donc c'est vraiment pas terrible. Donc en fait il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à l'arrêt de la consommation animale. Cependant j'avais pas arrêté totalement tous les produits animaux, donc tout ce qui était produits laitiers je restais à les consommer, jusqu'au jour où je me suis aperçu, là encore avec une lecture, c'était un bouquin de cuisine de Marie Laforêt, où elle expliquait que c'est un truc tout bête, hein, mais j'y avais pas du tout pensé, c'est que pour faire du lait, il faut enfanter la vache par exemple, et donc il faut lui faire produire à chaque fois des petits veaux. D'une part, pour la vache c'est pas forcément très très sympa une vie comme ça. En plus le veau, qu'est-ce qui devient, en général tué, quoi. Donc finalement la consommation de lait encourage aussi la maltraitance animale. Donc j'ai arrêté aussi, et maintenant me voilà vers le mode de vie plutôt vegan, avec l'arrêt complet de tout ce qui encourage la production animale, tout en gardant, par rapport au vélo, par exemple, je me suis acheté des habits en mérinos, qui sont du coup de la laine, mais je les ai achetés d'occasion, ce qui me permet, moi, de pas soutenir directement l'industrie de l'élevage, et plutôt de faire une pierre deux coups, à la fois l'aspect écologique, puisque c'est un objet d'occasion, mais aussi l'aspect ne pas soutenir une filière qui, potentiellement, pourrait faire de la maltraitance.
Tu te rappelles le livre dont tu parlais qui t'a fait le déclic pour le végétarisme ?
Oui, c'est Antispécisme de Émeric Caron. C'est que en fait, on n'est pas éduqué de telle façon qu'on s'aperçoit de comment est produit le steak qui finit dans l'assiette, et on est, je pense, justement orienté à ce qu'on sépare les deux choses entre manger et l'élevage. C'est deux choses complètement différentes, alors qu'en fait c'est lié, et que la façon dont on mange induit des impacts forts sur l'élevage et la maltraitance animale. Donc, mais ça, c'est des liens qu'il faut voir, quoi.
C'est vrai qu'au final, si tu cherches pas, enfin, tu peux te leurrer avec les images marketing, avec les poulets dans les champs ou des choses comme ça.
Ouais, si tu parles des poulets, notamment de l'aspect plein air, où en fait on a juste, je sais pas, 12 mètres carrés, je crois. C'est pas énorme en fait en espace quand on dit plein air ou même nourri au grain. Enfin, c'est des trucs où c'est pas toute l'année comme ça. On sent que l'industrie se sent peut-être un peu coupable, ou en tout cas suit un peu les préoccupations des consommateurs en essayant d'enrober un peu l'élevage avec des termes, on va dire, plus respectueux. Mais il y a une fois, moi j'ai été choqué par une pub, c'était pour un filet de poulet, où c'était écrit 106, 106, 106, ça, enfin plein de produits chimiques, où ils disaient qu'il n'y en avait pas. Mais ça veut dire que dans tous les autres, il y en a. Moi, ça m'interpelle, parce que quand je vois qu'un produit, il y a une liste de 10 choses où c'est écrit sans ces choses-là, ça veut dire que tous les autres où c'est pas marqué, il y en a. Ça fait un peu peur, quand même. Donc, il y a l'aspect santé aussi qu'il faut pas négliger, parce que même si l'aspect éthique nous touche pas, l'aspect écologique nous touche pas, il y a l'aspect santé. Et la santé, c'est quand même un peu important. Et du coup, en fait, par ces trois thématiques-là, on peut arriver vers le végétarisme assez facilement, quoi. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi différentes recommandations nutritionnelles en fonction des pays. Et c'est ça qui est intéressant. En Angleterre, on recommande d'être végétarien, par exemple. En France, jamais. En France, c'est à la limite. Des fois, on entend qu'il faut réduire quand même la consommation de viande animale, mais jamais t'entendras personne pour l'instant dire que végétarien c'est encouragé parce que on consomme beaucoup moins de graisse, qu'il y a moins de risques cardiovasculaires, de cancer, tout ça. Sans doute parce qu'il y a une grosse industrie de la viande derrière, mais du coup c'est aussi intéressant de comparer les recommandations nutritionnelles entre les pays.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Tu t'es plongé un peu là-dedans ou t'as juste regardé la France et l'Angleterre?
C'est que ma compagne est très intéressée par l'Angleterre et m'en a parlé de l'Angleterre. Je me suis pas plongé là-dedans, mais j'ai aussi eu des échos par rapport à ce qui est fait en Allemagne. Parce que pour une étude complètement différente, mais par rapport au zéro déchet, j'avais discuté avec quelqu'un qui était en Allemagne, et on parlait forcément, autour du zéro déchet, on parle forcément du végétarisme. Et en Allemagne, c'est une question qui se pose tout naturellement, les gens en parlent, il n'y a aucun souci. En France, moi, j'évite très clairement de le dire à des gens que je connais pas ou que j'ai juste rencontrés, parce que déjà, premièrement, véganisme, c'est connoté. Un vegan, c'est quelqu'un qui balance des seaux de sang au boucher et qui casse des vitrines. Végétarisme, ça peut encore passer, mais c'est très limite. Du coup, moi, j'essaye de changer un peu les termes, mais je dis que j'ai une alimentation végétale, ça fait un peu moins connoté, plus marketing, tout ça. Mais en France, c'est quand même très très clivant, quoi. Le régime alimentaire, alors qu'en fait, c'est un peu la liberté de chacun, quoi. On fait un peu ce qu'on veut. Et moi, même si j'encourage un peu tout le monde à changer de régime alimentaire, je force personne. Alors qu'au contraire, quand moi j'explique un peu comment je consomme, on essaye toujours de me convaincre que c'est pas bien, qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça. Alors que moi, j'essaye pas de convaincre, j'explique, c'est tout. Mais voilà, en France, il y a beaucoup de conflits autour de ça, et c'est un peu dommage.
Et comment tu réponds aux gens qui, par exemple, te disent « Oui, les protéines végétales, t'en as pas autant que quand tu manges un morceau de viande ?»
Déjà, la première chose, c'est que je leur demande s'ils sont nutritionnistes. Parce qu'en fait, c'est un peu le truc de base, c'est que la protéine, ça a l'air d'être la question numéro un que tout le monde se pose, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres trucs. Il y a des nutriments, des vitamines, parce qu'en fait, tu manges de la viande, mais ça suffit pas. Alors, ok, tu auras peut-être des gros muscles, mais tu vas avoir des problèmes au niveau du cerveau, au niveau du fonctionnement complet de l'organisme, parce que tu n'auras pas tes vitamines, tu n'auras pas tes fibres, tout ce qui se trouve, en fait, dans les légumes et les fruits. Effectivement, faut éviter les carences, mais je pense que la carence en protéines, faut vraiment y aller pour l'avoir. Et moi, je réponds juste qu'en fait, il faut faire une sorte de triptyque avec l'alimentation végétale. C'est qu'on mélange céréales, légumineuses pour que dans chacune de ces catégories, il y ait tous les acides aminés qui puissent assembler une protéine. Donc, il faut assembler les deux, céréales et légumineuses, pour avoir l'équivalent protéine. Mais du coup, la protéine végétale ou la protéine animale, en fait, c'est la même. Et donc, il suffit d'assembler ces deux choses-là et ensuite de mettre une grosse portion de légumes avec, hein, et parce que c'est pas forcément un tiers. On va dire que céréales légumineuses, ça fait peut-être la moitié et puis le reste en légumes et fruits. Mais je suis toujours assez étonné que des gens qui mangent un steak frites me posent à moi la question est-ce que j'ai des carences et est-ce que je m'alimente bien, quoi. Niveau équilibre alimentaire, on a trouvé mieux quand même. Une dernière chose aussi sur la protéine, parce qu'en fait, moi je fais beaucoup de vélo, presque tous les jours, et j'ai fait quelques étapes à vélo où je faisais 100 km dans la journée. Pour ça, faut avoir des muscles. Je dis pas que je suis ultra musclé, hein, c'est pas le débat, mais c'est juste que en me nourrissant uniquement de végétal, j'arrive à faire 100 km de vélo par jour. Donc si j'avais une carence ou un souci, je pense que je l'aurais vu assez vite.
C'est un bon point. Comment justement donc ta prise de conscience écologique a impacté ta manière d'apprendre le voyage et la mobilité?
Ma réflexion, depuis que je suis un peu dans le mode de vie zéro déchet, c'est de toujours réfléchir à l'impact de mes actions. Et du coup, quand on se pose des questions de l'impact, il y a d'une part la consommation, donc c'est la vie de tous les jours, voilà, comment est-ce qu'on vit sa vie. Il y a la question du travail aussi, parce que le travail pose des questions sur l'impact sur la planète, parce que moi, notamment dans l'informatique, il y a un impact assez énorme qui en plus est caché. Et ensuite, une fois qu'on s'est posé des questions sur son quotidien, son travail, il reste la partie, on va dire, vacances. Et là se pose la question du moyen de transport et du temps qu'on a à disposition. Et les deux sont liés, parce qu'en fait, moi, si je veux aller en Indonésie, par exemple, je refuse absolument de prendre l'avion, parce que l'avion, c'est un impact assez énorme. À la fois en CO2, en pollution, en bruit, en tout ce qu'on veut. L'avion, c'est vraiment, pour moi, le pire mode de transport qui existe. Du coup, j'ai le choix soit de le faire en vélo, complètement, mais là, du coup, il va me falloir beaucoup de temps, soit un bon compromis, ce serait, par exemple, train plus vélo. Voilà. Je fais un peu de vélo, je fais un peu de train, mais du coup, tout ça, c'est dans l'idée de réfléchir à l'impact du mode de transport sur la planète. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit qu'il fallait que je change de mode de transport. Du coup, je suis passé sur le vélo. Pour l'instant, je suis au tout vélo, mais parce que je me suis un peu restreint au niveau des destinations que je souhaite visiter, pour ne pas y consacrer non plus un an, par exemple, pour faire le tour du monde. Là, pour l'instant, je fais par petites étapes. Moi, pour l'instant, je me limite à l'Europe en termes de destination. Et bon, une fois que j'aurai fait le tour de l'Europe, j'irai un peu plus loin. Mais l'idée, c'est de privilégier encore une fois l'expérience à la destination. Et de prendre le temps vraiment de voyager. Parce qu'en fait, quand on prend l'avion de Paris à Bangkok, entre les deux, on n'a rien vu en fait. On n'a rien vu et on a produit beaucoup de déchets. Donc finalement, l'intérêt, il est limité. Bon, on a vu Bangkok, ok, on pourra le raconter aux collègues que pendant une semaine, on a été là-bas. Mais l'intérêt est limité. Alors que raconter tout un voyage, même pour aller juste, je sais pas moi, ce que j'ai fait, moi j'ai fait Nantes-Toulouse, ça a pas l'air exceptionnel comme ça, mais je l'ai fait à vélo pendant 10 jours, et finalement j'ai beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'expériences à partager, et c'est beaucoup plus intéressant que si je l'avais fait en avion, parce que c'est possible aussi de le faire en avion. Voilà comment m'est venu ce mode de transport vélo qui est maintenant mon quotidien.
Tu te cantonnes à l'Europe, mais est-ce que tu dois revoir aussi comment tu organises ton temps de vacances et tout ça?
Et oui, et c'est pour ça aussi que j'ai quitté mon emploi qui était un emploi salarié avec 5 semaines de congés par an, le truc un peu classique, et que maintenant je souhaite monter mon projet autour du voyage à vélo et du zéro déchet pour être maître de mon temps, en fait, et pouvoir me dire je me laisse 3-4 mois pour aller découvrir un endroit, faire du vélo, voyager, tout ça. Ce qui, en plus, fera partie de mon travail, en quelque sorte. Donc, finalement, moi, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable en travaillant pour pouvoir voyager, mais en voyageant, ça me fait mon travail. C'est un peu un mix que j'essaye de trouver. C'est un peu le travail idéal. Mais finalement, c'est un peu ce que tout le monde devrait rechercher dans sa vie, c'est trouver le travail qui lui permet de de ne pas se sentir obligé de le faire, c'est-à-dire vivre de sa passion. Parce qu'on va pas tous faire du voyage à vélo, mais on peut très bien être maraîcher, faire de la chaudronnerie, de la charpente. Il y a plein de travaux qui sont des travaux de passion, des métiers de passion. Et moi, c'est ça que j'aimerais que tout le monde arrive à trouver, c'est quelle est sa passion et faire de sa passion son métier. Parce que il y a beaucoup d'emplois, notamment dans l'informatique, hein, l'emploi que je connais, qui sont très très inutiles. Donc autant que les gens fassent des choses utiles pour eux et pour les autres. Tout ça pour dire que j'essaye de gérer mon temps en fonction de mon travail et de mes vacances. Et je peux le faire aussi parce que j'ai fait un gros travail de réduction de dépenses. Parce qu'en fait, c'est la première étape pour moi dans un changement de vie. Si on veut passer d'un travail qui procure un salaire confortable. Moi, par exemple, j'étais à 2 400 € par mois sur Nantes. Donc, c'est vraiment, il y a de quoi faire avec ce salaire-là. On peut partir très loin en vacances et tout. Mais ça nous oblige à travailler tout le temps et avoir que 5 semaines de congés par an. Donc, si on veut changer de mode de vie, il faut commencer par réduire ses dépenses. Parce que réduire ses dépenses, c'est un peu la clé de la liberté. Parce que moi, maintenant, en termes de dépenses fixes, c'est-à-dire loyer plus alimentation, bah, je suis autour de 500 € par mois. Donc ça, c'est ce qu'il me faut pour vivre très confortablement. J'ai l'alimentation dont je parle, c'est que du bio, de la haute qualité, tout ça, et je me fais plaisir, j'ai aucun frein. Donc vraiment, 500 €, c'est loyer plus alimentation. Et du coup, bah, ça me permet de pouvoir trouver des sources de revenus moindres qui me garantissent ce minimum par mois. Et ensuite, bah, une fois que j'ai atteint ce minimum-là, bah, le reste du temps, je le prends pour moi. C'est aussi simple que ça. Donc, commencer par réduire ses dépenses pour gagner du temps. C'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler moins pour gagner plus de temps. En fait, on a beaucoup plus d'impact sur les dépenses que sur le revenu. Il est beaucoup plus facile de réduire ses dépenses que d'augmenter son revenu. Et donc, plutôt que de chercher à avoir un deuxième boulot pour pouvoir vivre ses rêves ou je sais pas quoi, bah, essaye d'abord de réduire tes dépenses pour avoir besoin de moins travailler. Parce qu'on n'est pas obligé de tout le monde, voilà, être auto-entrepreneur, quitter son boulot et tout. On peut faire, je sais pas, un mi-temps, aménager. Peut-être on travaille que 6 mois dans l'année et puis les 6 autres mois, on va explorer le monde. C'est tout à fait faisable. Mais pour ça, faut avoir besoin de moins d'argent, tout simplement. Et voyager autrement aussi, parce que si on prend l'avion et des hôtels 4 étoiles, c'est pas pareil, quoi.
Si des gens étaient intéressés par cette démarche, quel conseil t'auras à donner pour justement réduire ses dépenses?
Eh ben, première chose, vendre sa voiture. Parce qu'en fait, c'est la première chose que j'ai fait moi, et ça m'a fait économiser énormément, énormément d'argent, parce qu'en fait, j'avais acheté une très, très belle voiture, sportive, à crédit. C'était ça mon mode de vie avant. Du coup, j'avais un crédit autour de entre 200 et 300 euros par mois dessus. À ça, il fallait ajouter l'assurance, l'essence et les frais d'entretien aussi, qui sont pas négligeables. Et en plus, je louais un garage pour qu'elle soit bien à l'abri, tranquille, voilà. Donc tout ça, ça faisait à peu près, je me souviens plus exactement des chiffres, mais entre 500 et 600 euros par mois juste sur la voiture. Donc c'est assez incroyable l'argent qu'on peut gagner en vendant sa voiture. Parce qu'en fait, il y a des coûts, on va dire, un peu cachés, qu'on voit que quand on les dépense, c'est-à-dire tout ce qui est entretien. Parce qu'entretien, bon, si on le fait pas régulièrement, qu'on le fait qu'une fois de temps en temps, bon, ok, il faut lâcher 600 € pour réparer un truc, mais on l'a fait qu'une fois. Mais en fait, si on lisse sur toute l'année, on voit combien on dépense par mois, rien que sur la voiture. Et finalement, si on a des besoins ponctuels autour de ce mode de déplacement, bah, il y a plusieurs solutions. Si on veut une voiture rien que pour soi, on peut la louer. Ce sera toujours moins cher que d'en posséder une. Sinon, il existe des solutions d'autopartage suivant les villes dans lesquelles on est. Il y a le covoiturage, et puis il y a le bus aussi. Enfin, il y a plein d'autres moyens de transport que la voiture individuelle. Et donc, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais, si on a une voiture, évidemment, c'est s'en débarrasser.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir le vélo comme moyen de transport pour voyager plutôt que le train, par exemple ?
C'est un concours de circonstances, en vrai. C'est-à-dire que en Île-de-France, il y a un moment, j'ai déménagé et je me suis retrouvé à Pantin. Et Pantin, il se trouve que c'est sur le bord du canal de l'Ourcq. Et j'allais souvent faire des balades sur le canal. Et puis, je voyais des petits panneaux directionnels avec un signe distinctif que je connaissais pas. Et je me suis aperçu plus tard que c'était un signe des Eurovélos. Donc, c'est des routes dédiées aux vélos pour découvrir l'Europe. Mais pour avoir cette info-là, bah, du coup, j'ai regardé le panneau et puis je suis allé faire mes petites recherches pour savoir un peu ce qu'il en retournait. Et c'est là que je me suis aperçu que, ben, il y avait tout un réseau de routes dédiées au vélo en Europe et notamment celle qui passait par Pantin. C'est celle qui va de Norvège jusqu'au Portugal. C'est pas mal comme route. En fait, c'est la route de Saint-Jacques de Compostelle. Et du coup, je me dis, il y a énormément de choses à voir avec le vélo et finalement, il y a des routes sécurisées pour commencer à prendre en main un peu le vélo et s'habituer au voyage à vélo. Du coup, l'intérêt est venu de là. Et puis, petit à petit, je me suis remis au vélo parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais ado. Puis après, bah, voilà, travail, métro, tout ça. Donc, on fait un peu moins de vélo. Et donc, je m'y suis remis. J'ai fait des balades sur le canal. Ça m'a bien plu. Et voilà, de fil en aiguille. Après, pareil, autour de Nantes, il y avait plein de routes dédiées au vélo qui passent par Nantes. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'entraîner là-dessus, à y prendre goût. Et puis finalement, j'ai fait Nantes-Toulouse à vélo pour voir un peu si j'étais capable de faire des moyennes distances à vélo, de le faire plusieurs jours d'affilée, me nourrir tout seul, tout ça. Et finalement, ça m'a bien plu, donc bah, je continue sur cette lancée-là.
Tu parlais de justement se nourrir. Comment t'as géré ça, et particulièrement le fait que t'es vegan?
Alors du coup, se nourrir, bah, il y avait... Première question, toujours pareil, c'est l'impact. Parce qu'en fait, pour cuisiner, en voyage, en randonnée, il y a plusieurs solutions à disposition. Pour faire de la cuisine cuite, on a des réchauds. Donc des réchauds, que ce soit à gaz ou à essence ou alcool, je crois que c'est tout. Et du coup, il y a une dernière solution qui est le réchaud à bois. Et cette solution, elle m'a tout de suite intéressé parce que il n'y a pas besoin d'avoir une cartouche de gaz et ensuite pas de la jeter, parce qu'une cartouche, on peut rarement les remplir une fois qu'on les a vidées. Et ben, pour ce qui est de l'essence, l'impact est assez évident. C'est vraiment pas terrible. Et en plus, brûler de l'essence, je conseillerais pas de respirer ça quand on fait la cuisine. Et du coup, je me suis intéressé au réchaud à bois parce que bah déjà c'est économique, parce qu'il suffit en fait quand on traverse une forêt de ramasser du petit bois un peu par terre, et voilà, ça nous fait notre combustible. Brûler du bois, c'est beaucoup plus écologique que utiliser du gaz ou de l'essence ou de l'alcool. Puis ça donne une bonne odeur à la cuisine, c'est assez sympa. Et du coup, bah, l'impact est très réduit. Une fois qu'on a fini de faire chauffer sa nourriture, bah, il reste que des cendres. Et les cendres, bah, c'est pas mauvais du coup pour l'environnement, c'est même plutôt enrichi, ça enrichit les sols. Donc il suffit de dispatcher ça autour du camp, et puis voilà, en gros, une fois qu'on est parti de l'endroit où on a cuisiné, on ne doit plus voir aucune trace de notre passage. C'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est pour l'aspect cuisson. Et après, qu'est-ce que je fais cuire? Bah du coup, en fait, j'ai fait la suite de mon mode de vie actuel en prenant tout un tas de sacs à vrac que j'ai rempli de céréales, de légumineuses. J'avais demandé aussi à ma mère de me faire sécher des oignons, de l'ail, des pommes, des carottes, comme ça. J'avais pas mal de fruits et de légumes, et sécher, ça prend beaucoup moins de place et beaucoup moins de poids. Donc c'était assez intéressant comme principe. Et du coup, je suis parti avec un peu, en gros, ma cuisine avec moi. La contrepartie de tout ça, c'est que bah, c'est un peu lourd, parce que j'avais pas loin de 5 kilos d'alimentation avec moi. Bon, j'avais vu un peu trop large aussi, hein. C'était mon premier voyage, je voulais être sûr de pas manquer, donc voilà, j'avais pris beaucoup. Mais du coup, c'est un peu ce que j'appelle le poids des convictions, parce que c'est plus facile d'acheter des barres de céréales ou de rien emmener avec soi. Et quand on arrive au camping, par exemple, on va à la supérette du coin, on achète une salade préparée. Là, du coup, on transporte aucun poids, c'est plus facile de pédaler. Par contre, ben, on remplit une poubelle par repas. Donc, moi, je voulais pas de ça. Donc, j'ai fait le choix d'avoir un peu plus de poids dans les bagages pour justement limiter mon impact. Et finalement, en cuisinant mes repas, ben, j'ai un peu les mêmes recettes qu'à la maison, en beaucoup plus simple, mais quand même, du coup, ça a pas mal de goût. En plus, ça fait une vraie pause de cuisiner, parce que du coup, ben, je prends au moins une heure sur ma journée de voyage pour cuisiner. Donc c'est une vraie pause entre 3-4 heures de vélo, et c'est assez enrichissant de commencer par des produits bruts, les transformer, et puis finalement on arrive, on a un plat, on le mange, enfin je trouve que c'est une belle récompense de cuisiner. Enfin aussi j'aime bien ça, donc c'est pour ça. Mais voilà un peu comment je m'alimente en voyage, en fait avec la même chose qu'à la maison. Et le même système avec les sacs à vrac que je remplis sur la route avec les boutiques que je trouve sur mon chemin, et voilà.
Et tu trouves que c'est difficile de trouver des boutiques vrac, suivant où tu vas?
Oui, on va pas se mentir, c'est plus facile au centre-ville de Nantes de trouver des boutiques en vrac que entre deux grandes villes dans un voyage. Donc pour ça, moi j'ai une aide assez précieuse qui est un site internet qui s'appelle cartovrac.fr qui regroupe en fait tous les points de vente en vrac, particulièrement en France. Et du coup, bah je regarde lequel est le plus proche de là où je suis en fait. Il y en a souvent assez proches, mais après c'est une comment dire, c'est à planifier quoi le ravitaillement parce que moi je pars toujours avec quelques réserves. J'ai 2-3 jours devant moi et donc j'ai 2-3 jours pour trouver une boutique en vrac. Donc finalement, c'est pas impossible quoi parce que il y en a pas dans tous les coins de France, mais en 2-3 jours, je fais à peu près si je compte 70 km de moyenne, ça me fait 210 km en 3 jours. Il y a de quoi trouver une boutique en vrac dans un rayon de 210 km, je pense. Donc c'est faisable.
Tu parlais de la route et l'expérience du voyage plutôt que juste la destination. Est-ce que tu aurais un des souvenirs ou des rencontres à partager que tu as pu faire pendant un de ces voyages?
Les souvenirs, c'est surtout au niveau de l'expérience qui est pour moi presque de la méditation en fait. Parce que j'ai voyagé tout seul et le premier voyage que j'ai fait, je faisais des étapes de 100 km, ce qui est beaucoup, hein. Je referai sans doute pas des étapes aussi longues, mais du coup je pédalais presque toute la journée, hein. En gros de 9h à 18h. Et le fait de pédaler autant, c'est un effort sportif fort et long, et ça m'a permis de vider complètement la tête. Je pensais vraiment plus à rien, et c'est en ça que je dis que ça rapproche un peu de la méditation. C'est parce que du coup on vit vraiment l'instant présent, on ressent tous les efforts qu'on fait, la douleur, la fatigue, parfois la faim, mais on s'en libère aussi. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer. Il faut l'avoir vécu, faut le vivre. Mais pour ça, je conseille aussi de le faire tout seul, au moins une fois, parce qu'en fait, quand on voyage tout seul ou à deux, c'est ou à plusieurs, c'est différent parce que tout seul, vraiment, on se retrouve à réfléchir sur soi-même. Et à être dans l'effort tout seul, on compte un peu que sur soi si on a un souci mécanique ou musculaire ou n'importe quel autre souci. Alors qu'à deux, c'est différent, ou à plusieurs, parce que sur le trajet on discute, c'est une autre façon de voyager, et du coup c'est un peu moins à mon sens méditatif. Donc c'est une autre expérience. C'est vraiment deux choses différentes, voyager seul et en groupe. Mais pour trouver un peu, pour se retrouver, peut-être que ça peut être l'occasion aussi de, si on est en transition justement, si on n'a pas encore changé son mode de vie, faire une semaine de vélo, en ne comptant pas les kilomètres, vraiment juste, on roule, on avance, on roule toute la journée, et je pense que c'est un bon moyen pour que ça travaille dans la tête, sans qu'on ait besoin de se poser et de réfléchir. Ça vient tout seul, et peut-être qu'à la fin de la semaine, on aura trouvé des pistes qu'on n'avait pas trouvées avant. Donc ça, c'est au niveau de l'expérience du voyage, presque mystique du coup, c'est assez sympa. Puis pour les rencontres, c'est quelque chose que j'ai découvert, j'ai découvert que les gens sont sympas et gentils en voyageant à vélo, parce que moi, je suis plutôt citadin à l'origine. Je suis né à Poitiers, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Nantes, qui sont des grandes villes. Et on va dire le point commun de ces grandes villes, c'est que les relations entre les gens sont pas toujours très cordiales, et on évite assez régulièrement de discuter avec des gens qu'on connaît pas. En gros, c'est ça. Enfin, c'est ma vision. Alors que quand on est à vélo, on traverse des coins beaucoup plus nature, où il y a beaucoup moins de monde, et le fait d'être à vélo avec des bagages, dès qu'on s'arrête, ou même sur la route, des fois on se fait arrêter par des gens qui sont piqués un peu par la curiosité, et nous demandent d'où on vient, comment se passe le trajet, s'ils peuvent nous filer un coup de main. J'ai même rencontré quelqu'un qui venait de cueillir des champignons, qui m'en a proposé sur la route, parce qu'il me dit comme ça t'auras de quoi cuisiner. Enfin, c'est vraiment très très enrichissant au niveau rencontre, parce qu'il y a même pas besoin de les provoquer en fait. Juste le fait d'être à vélo, C'est un formidable passeport de rencontre. Récemment, quand j'ai traversé la Bretagne par les petites routes de campagne, là j'ai pas pris les Eurovélos, j'ai pris des petites routes de campagne, et je m'arrêtais régulièrement dans les villages pour aller à la boulangerie ou voilà, faire une petite pause. Et des gens viennent, voilà, juste parce que j'ai un vélo avec des bagages et que je suis assis sur la place de village, ben il y a des gens qui viennent me voir, des enfants qui me disent ah oui il est super beau ton vélo. Enfin c'est voilà, c'est, ça a l'air de rien, mais finalement ça encourage le lien entre les gens et ça augmente un peu le capital sympathie de l'humanité. Donc c'est vraiment sympa. Et encore une fois, c'est parce qu'on est plus lent, parce qu'en voiture, si je traverse un village, j'ai très peu de chances de rencontrer quelqu'un. À vélo, je roule à peu près à 15 km/h de moyenne. C'est très facile de s'arrêter, très facile de discuter avec quelqu'un même en roulant. Enfin, voilà, tout l'aspect temps est complètement différent avec un vélo ou à pied que en voiture, par exemple, ou même en train.
Je pense qu'il y a aussi toi qui as changé aussi ta façon de voir les choses et d'appréhender le temps, parce que t'aurais des gens, ils pourraient très bien voyager à vélo, mais ce serait vraiment, faut que je fasse absolument telle étape et qui serait pas forcément dans l'instant et dans ça, quoi.
Oui, en fait, j'ai un peu connu les deux parce que moi, justement, mon premier voyage, je me suis dit, il faut que je fasse 100 km par jour, absolument, 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 pour aller le plus vite possible. Mais du coup, je me suis aperçu en faisant que finalement, c'était mieux pour moi de prendre le temps et de vivre l'instant présent. Mais il y a ces différentes pratiques du vélo. En fait, il y a des gens qui préfèrent tracer, voyager léger pour pouvoir rouler vite et faire. Il y en a qui font même 200 km par jour, mais parce qu'ils voyagent très léger. Et du coup, au lieu de faire 15 km de moyenne par heure, ils en font 30. Finalement, voilà, c'est pas si difficile que ça. Enfin, faut être sportif quand même. Mais chacun a sa façon de voyager en fait à vélo. Il y a des gens qui voyagent lourd, d'autres qui voyagent léger, d'autres qui font beaucoup d'étapes, d'autres qui font moins de kilomètres. C'est un peu chacun voit ce qui est bon pour lui. En fait, il faut essayer pour voir ce qui est bon pour soi, tout simplement.
Tu es venu t'installer en Bretagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger là-bas ?
En fait, l'occasion de venir habiter en Bretagne, elle s'est faite complètement par hasard. J'étais pendant une réunion en fait avec Zero Waste Nantes, une réunion autour de l'aspect plaidoyer qui était très technique, très voilà, qui allait assez loin autour des municipales notamment et plein d'aspects législatifs, et du coup moi j'arrivais plus à suivre. Donc j'ai fait quelque chose qui est pas très bien, c'est que je suis allé sur le Bon Coin en même temps pour regarder des petites annonces autour de voilà de chalets à louer, de terrain pour des tiny houses aussi par exemple, parce qu'à l'époque on cherchait pas mal de solutions, et je suis tombé sur un chalet à louer en Bretagne, vers Guingamp, un chalet voilà de 20 mètres carrés. Et je me suis dit, ça, c'est l'occasion de changer de vie et de diminuer aussi, encore une fois, ses dépenses. Donc là, on cumule beaucoup de points positifs de mon point de vue. On a l'aspect minimalisme avec un chalet beaucoup plus petit que l'appart dans lequel je vivais, qui était de 50 mètres carrés. On a l'aspect nature, parce que du coup, je suis dans un lieu dit, donc c'est vraiment tout petit. On a l'aspect Bretagne, et du coup, voilà, mon mode de vie s'en trouve beaucoup plus serein, calme. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup plus d'idées qui me viennent. Je suis moins perturbé par les bruits de la circulation, par exemple, parce que j'habitais sur un boulevard, donc beaucoup, beaucoup de bruit. Je me réveille en même temps que les petits oiseaux. Enfin, c'est vraiment une autre vie. Je découvre aussi la nature parce que je sors tous les jours me balader dans les coins du petit village. La petite difficulté, c'est que j'ai voulu absolument garder le mode de vie zéro déchet, ce qui est un petit peu plus difficile quand on habite dans un lieu dit qu'au centre-ville de Nantes, puisque là, en termes de boutique en vrac, c'est pas la même chose. Pour autant, je fais toujours tout à vélo. Donc ça, j'ai gardé le vélo. Donc en gros, pour que j'aille à la grande ville qui est Guingamp, j'ai peut-être 8 km à faire aller-retour. Donc c'est pas énorme, mais bon, voilà, il faut les faire quand même. Donc ça, j'ai voulu le garder à vélo. Les courses, c'est le marché pour tout ce qui est produits frais. Et pour le vrac, pour l'instant, on a une biocoop à Guingamp, mais c'est pas forcément l'idéal, mais on cherche des alternatives. On va voir un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, on a retrouvé notre mode de vie zéro déchet qu'on avait en ville. On fait plus d'efforts pour y arriver, plus d'efforts physiques, mais qui finalement sont bénéfiques pour la santé, donc je pense que c'est mieux quand même.
Et du coup, alors tu dis être passé d'un appartement de 50 mètres carrés à 20 mètres carrés. Comment ça s'est passé pour peut-être faire le tri et passer vers un mode de vie plus minimaliste, comme tu disais?
Ça ne nous faisait pas peur parce qu'on avait fait déjà un petit séjour en tiny house, qui est l'équivalent à peu près ces 20 mètres carrés aussi, parce qu'on s'intéressait à cet habitat pour nous. Et du coup, comme on avait fait un séjour, pour voir justement si ça nous convenait cet espace, on avait fait un séjour d'une semaine, à la fois pour voir si ça nous convient et aussi pour laisser un peu de place au moment d'ennui. Parce que c'est important de voir comment on va se sentir quand on s'ennuie dans un petit espace. Parce que ça, si on fait un séjour de 3 jours, on n'a pas le temps de le voir. Mais nous, on voulait vraiment voir aussi cet aspect. C'est important de le tester. Parce qu'on peut se sentir bien 3 jours quelque part, mais pour 6 mois, ça sera pas pareil. Et donc, ça nous a bien plu. Donc c'est pour ça on s'est dit 20 mètres carrés dans un chalet, ça devrait le faire. Avant d'arriver dans 20 mètres carrés, effectivement, il faut se débarrasser de pas mal de choses parce que même si dans notre appart de 50 mètres carrés, on était déjà minimaliste, on avait quand même pas mal de meubles. Et donc meubles, machine à laver, gazinière, bah tout ça en fait on a donné à des particuliers ou à des associations, notamment l'électroménager on l'a donné à une asso nantaise qui s'occupe de faire la maintenance et puis de la revendre à pas cher, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis après il y a tout ce qui est objets personnels, matériels, mais on n'en avait pas tant que ça déjà de base, donc nous on a c'est surtout des livres qu'on a en quantité. Mais ça tient dans une étagère, donc c'est impeccable. En termes de vêtements, on a déjà fait plein de tri et j'ai appliqué une technique assez simple pour réduire le nombre de vêtements. C'est en gros, je fais un état des lieux après 1 an de ma garde-robe. Ce que j'ai pas mis pendant 1 an, bah je le donne, tout simplement. Et au final, je me retrouve avec 4 t-shirts, 3 pantalons. Finalement, c'est largement suffisant. Par contre, pour mon mode de vie vélo, il y a beaucoup d'objets autour du vélo, que ce soit matériel de camping, avec la tente, le duvet, le matelas, tout ce qui tourne autour du vélo, des outils autour du vélo, tout ça. Donc ça prend beaucoup de place, mais c'est pas dans le chalet. Parce qu'on est sur un lieu où il y a un hangar, donc on entrepose tout ça dans le hangar. Donc finalement, comme on avait un espace de stockage, on a pu garder tous les objets dont on se sert pas tous les jours, mais qui sont importants quand même, justement, qui est pour voyager à vélo. On est très bien comme ça, et déjà on dépense pas beaucoup d'énergie pour le chauffer. Ça nous encourage à sortir parce que quand on est dans 20 mètres carrés, l'idée c'est pas d'y rester toute la journée assis sur sa chaise, c'est sortir, profiter de l'espace qu'on a dehors, et c'est ce qu'on fait et c'est génial.
Tu me disais aussi, ça m'intéressait pas mal, que tu t'impliquais auprès d'un groupe qui est en train de monter une monnaie locale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà peut-être ce que c'est une monnaie locale pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est?
Commençons par le commencement, effectivement. La monnaie locale, en fait, c'est un peu un système d'échange alternatif par rapport à la monnaie, à l'euro. Donc c'est une monnaie qui est sur une zone géographique limitée et elle fonctionne par des commerçants qui sont volontaires. Du coup, c'est les commerçants qui sont partenaires de la monnaie locale qui vont soit être distributeurs, soit accepter qu'on les paye en monnaie locale. En général, une unité de monnaie locale est égale à une unité en euros. La seule chose, c'est que, comme la monnaie locale, elle n'est pas valable hors du territoire concerné, à chaque fois qu'on a de l'argent en monnaie locale, on la dépense sur le territoire donné. Et comme c'est très très souvent des petits commerçants qui sont partenaires de ces monnaies-là, on sait où va l'argent, ça encourage l'activité économique du territoire, et ça fait que l'argent reste sur le territoire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs inconvénients à l'euro. La première chose, c'est que quand on va faire ses courses en grande surface ou qu'on achète un objet sur Amazon, par exemple, on sait pas forcément où va l'argent. Parce que en gros, l'argent est fini dans le résultat de la société, et soit il est réinvesti, mais c'est pas souvent le cas, soit il est mis, par exemple, dans un paradis fiscal ou des choses comme ça, et finalement il bénéficie pas au territoire sur lequel on a dépensé. Donc c'est un peu ce que veut faire la monnaie locale, c'est ancrer l'activité économique sur le territoire et éviter que l'argent ne s'échappe. Parce que c'est un peu de l'économie, mais il y a un système que certains pays utilisent pour relancer un peu la fameuse croissance. C'est, par exemple, on va construire une autoroute. Ça va créer de l'emploi, ça va créer des salaires, on va encourager l'activité économique autour de ça. Donc ça va faire venir de l'argent, en théorie, dans le pays. Le seul souci, c'est que si tous les emplois qu'on a créés et les salaires qu'on a versés, les gens se servent de ces salaires pour acheter, par exemple, des vêtements qui viennent de Chine, et ben du coup, tout l'argent qu'on a injecté dans l'économie française, ben, en fait, il part en Chine. Et ça ne fonctionnerait pas avec une monnaie locale. Tout l'argent qu'on injecte sur le territoire reste sur le territoire. L'avantage de cette monnaie-là, c'est qu'elle est moins sujette aux crises économiques, parce que du coup, il n'y a pas de spéculation dessus, déjà, première chose. Et ensuite, comme toute l'activité locale est autour de ça, il y a moins d'impact des crises financières, c'est beaucoup plus résilient. En France, il y a quelques endroits où ça marche pas mal, mais ça manque un peu, je trouve. Et c'est pour ça que je suis pas encore à fond sur la question dans le Nord-Bretagne, mais je suis en train de m'inscrire pour soutenir un peu cette solution-là. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit nombreux à porter l'initiative de la monnaie locale pour qu'il y ait de plus en plus de commerçants qui soient partenaires. Et du coup, de plus en plus de gens qui disent « Ah tiens, je peux payer chez lui avec cette monnaie locale, bah finalement, ça va bien me servir ». Parce que s'il y a qu'un seul commerçant dans la ville qui l'accepte, les gens vont peut-être moins être enclins à l'utiliser. Alors que s'il y a premièrement beaucoup de bénévoles pour soutenir l'idée, et donc aller démarcher les commerçants, leur proposer la solution, bah du coup ça va faire une vitrine plus importante pour la monnaie locale auprès des consommateurs, qui vont s'y intéresser de plus en plus, qui vont finalement consommer de plus en plus avec cette monnaie locale. Et je crois même qu'il y a certaines communes qui acceptent de payer certains impôts locaux en monnaie locale. Et là, on arrive à un système qui commence à être très résilient, parce que si on peut payer les impôts locaux avec cette monnaie-là, ça encourage vraiment l'activité économique locale, donc c'est que du bonus.
Et qu'est-ce qui t'a donné particulièrement envie, toi, de t'impliquer dans ce projet ?
C'est parce que tout simplement j'aime bien tous les projets alternatifs. J'aime bien faire le pas de côté, en fait, le fameux pas de côté qui est ce dont la planète a besoin en fait actuellement, que ce soit au niveau écologique, économique ou tout ce qu'on veut. Parce que faire ses courses en vrac c'est bien, mais ça suffit pas. Et il faut aussi aller chercher les modes de vie alternatifs et les encourager. Vivre dans un écolieu, faire vivre une monnaie locale, voyager à vélo, encourager les autres à le faire. Tout ça c'est pour montrer que les alternatives sont viables, intéressantes et humainement enrichissantes. Donc moi je veux donner de ma personne pour que les gens se disent que bah finalement tout ce qui est vu comme alternatif, c'est la solution et c'est le monde actuel qui est alternatif. C'est un peu ça que je voudrais aider à montrer.
Tu me parlais d'outils justement au niveau de la pollution numérique pour limiter tout ça, c'était intéressant aussi.
Pour les voyageurs blogueurs, notamment, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect d'abord poids des photos. Parce que en voyage à vélo, le poids c'est très important dans les sacoches. Mais en informatique, le poids c'est aussi très important parce que ça prend de la place sur des serveurs informatiques et donc ça crée pas mal de pollution au niveau de la dépense énergétique. Donc la première chose, c'est réduire le poids de ces photos. Et pour ça, j'encourage à utiliser un logiciel qui s'appelle Photofiltre 7. Qui est gratuit, que j'ai téléchargé, et qui permet de réduire la taille de ces photos, donc en les compressant. Par exemple, les photos que j'ai prises avec mon portable, elles font en moyenne entre 3 et 4 mégaoctets. Je les réduis à 300 kilooctets. Et pour une qualité visuelle que j'ai trouvée équivalente. Sur mon site internet, ça a exactement le même détail. Et donc ça permet de prendre moins de place sur les serveurs, donc pour les fournisseurs internet, ça permet d'acheter moins de disques durs, et donc de moins consommer de ressources pour créer ces disques durs, et ensuite moins consommer d'énergie. La deuxième étape, c'est choisir son hébergeur, parce que clairement, si on reste sur des hébergeurs classiques, à WordPress classique, ou même tout ce qui est chez Google, les fameux GAFA, c'est des choses qui dépensent énormément d'énergie. Il y a beaucoup de solutions alternatives. Moi, je suis chez Infomaniac, par exemple, qui est un hébergeur suisse, où il y a pas mal d'efforts qui sont faits pour réduire l'impact, notamment en termes de dépenses énergétiques et de ressources liées au serveur. Mais il y a aussi des solutions encore plus alternatives que ça, qui sont les systèmes de chatons. ça s'appelle. C'est des gens qui mettent à disposition des serveurs. Je crois même que certains sont gratuits, il me semble. Enfin, c'est à vérifier. Mais du coup, c'est des solutions de partage et de collaboration, là encore, de type logiciel libre, en fait, tout simplement. Donc, c'est tout l'aspect libre d'Internet qui est à explorer pour l'hébergement. Pour les vidéos, pareil, essayer d'éviter YouTube au maximum. On a beaucoup moins d'audience, mais du coup, YouTube, ça consomme énormément d'énergie. Donc moi, pour mes prochaines vidéos, j'ai fait le choix de les mettre uniquement sur mon hébergement et pas de les diffuser sur YouTube pour des raisons écologiques. Et enfin, pour tout ce qui est, par exemple, questionnaire en ligne, tableau Excel, partagé, toutes ces choses-là qui sont faites habituellement par Google, y a toute une suite de logiciels qui s'appelle Framasoft, qui permet de partager des fichiers de type Excel, qui permet de partager des fichiers aussi. Au lieu d'envoyer une pièce jointe, on utilise un site qui s'appelle Framadrop, sur lequel on dépose le fichier, ça crée un lien. Le fichier est détruit au bout de 30 jours, du coup on envoie un lien à quelqu'un. La taille de l'email, c'est quelques kilos, au lieu d'avoir la pièce jointe en plus, et du coup la pièce jointe est sauvegardée à un seul endroit et en plus sera supprimée au bout de 30 jours. Donc c'est vraiment beaucoup mieux que d'utiliser des pièces jointes pour envoyer ses mails. Puis il y a d'autres outils, voilà, il y a Framacart aussi qui est pas mal pour construire des cartes, pour montrer les itinéraires qu'on a fait à vélo par exemple, qui est beaucoup mieux que Google Maps en termes de dépenses énergétiques. Et en plus c'est un logiciel libre qui n'exploite pas vos données. Donc c'est plutôt pas mal aussi en termes de politique de confidentialité.
Bah du coup, on arrive vers la fin. Est-ce que toi, peut-être, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, un sujet qu'on n'a pas abordé ou un message à faire passer que tu aurais pour finir ?
Non, bah une dernière chose, c'est profiter de la vie, que chacun trouve sa voie et ce pourquoi il est fait, ça c'est très important. Arrêtons de travailler par contrainte en se disant qu'il faut travailler pour vivre, parce qu'en fait, c'est un mauvais modèle. Il faut trouver sa voie, réduire ses dépenses s'il le faut pour y arriver, et tout faire pour que son idée, ce pourquoi on est fait, quoi, ça arrive. Et ça n'arrivera pas en deux jours. Prenez le temps vraiment de trouver l'idée. Moi, par exemple, j'ai arrêté mon travail en janvier, j'ai trouvé mon idée en juin. Ça a mis 6 mois. Faut laisser le temps aux idées de germer, prendre le temps surtout, pour que les idées germent. Et faites uniquement ce que vous voulez faire, arrêtez les contraintes.
Merci beaucoup pour cet échange, Nicolas. Et bonne route à vélo.
Ben merci à toi, encore beaucoup de routes à découvrir.
J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine !